On va parler aujourd'hui d'Éphésiens 6, versets 10 à 24. Il n'y a que 6 chapitres dans l'Épître aux Éphésiens. Et les versets 10 à 24 terminent cette épître. Une épître merveilleuse. Moi, j'ai eu beaucoup de régal. Je me suis régalé de préparer le commentaire de cette épître. Alors, on va lire, bien sûr, ces quelques versets. Et je lis dans la version du semeur, donc Épître aux Éphésiens, chapitre 6, et je commence au verset 10. Vous voyez qu'on arrive à la conclusion. « Pour conclure, écrit l'apôtre Paul, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Et autour de la taille, la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychique, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès auprès de vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc, vous avez le sujet donc de ces quelques versets, c'est le combat spirituel, hein, comme vous l'avez vu quand on l'a lu. Dans tous les chapitres précédents de cette épître, Paul a exposé magistralement cette réalité spirituelle qu'est le nouveau peuple de Dieu par rapport à l'ancien, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Un peuple issu aussi bien des Juifs que des païens que nous sommes. Ce nouveau peuple, ce sont les enfants d'un Père unique, rachetés par la mort d'un Sauveur unique et conduits par le même Esprit Saint envoyé par Jésus, on l'a lu, hein, pour suppléer à son départ de cette terre. Il a décrit devant nos yeux l'harmonie qui doit régner parmi ses enfants, une harmonie résultante de l'amour qui les unit. Il a détaillé la façon dont cette harmonie doit se manifester pour honorer Dieu, au sein des couples, dans les relations entre parents et enfants, et aussi dans les relations sociales, notamment dans le monde du travail. Le fait d'avoir un même Seigneur transforme de façon magnifique toutes ces relations, alors qu'elles sont naturellement marquées par la faiblesse et le péché. Mais ce projet magnifique de Dieu pour son nouveau peuple ne se réalisera pas sans combat. Et c'est donc le sujet de la fin de l'épître aux Éphésiens. Ce combat, C'est le sujet de cette dernière exhortation que Paul adresse aux églises de la province romaine d'Asie et entre autres d'Éphèse. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ça, c'est la traduction du semeur. Vous savez que tout combat nécessite de la force, bien sûr. Heureusement, cette force n'est pas en nous-mêmes. Paul nous exhorte à la puiser dans le Seigneur et dans sa grande puissance, avons-nous lu. Le texte original dit littéralement « Soyez fortifiés », le verbe est au passif, « soyez fortifiés » dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Cette puissance n'est rien moins que celle du Dieu qui a créé l'univers, de concert avec le Fils unique, et qui en maintient les lois, avec une sagesse qui dépasse toute connaissance. C'est aussi la puissance du Fils qui a vaincu l'adversaire lors du combat de la croix. Mais pour mener ce combat, il nous faut la panoplie des armes de Dieu que Paul va détailler. Ce sont les versets 11 et 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, dans la traduction que j'ai lue, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ces versets nous donnent des renseignements indispensables sur l'ennemi que nous avons à combattre. Cet ennemi, ce sont le diable et les démons. Paul nous rappelle que le diable est rusé. Il en a donné la preuve dès l'aube de l'humanité quand il a réussi à séduire Ève et dans la foulée entraîner Adam aussi dans la désobéissance à Dieu. Genèse 3, verset 1. Le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et Satan s'est attaqué avec les mêmes ruses à Jésus lui-même lors de la tentation au désert, allant jusqu'à lui citer l'Écriture dans sa tentative insensée de vouloir le pousser au péché. Paul nous parle de ses adversaires dont le diable se sert pour nous faire tomber, pour essayer de gagner du terrain par tous les moyens possibles. Ces adversaires ne sont pas des hommes, c'est ce que signifie la chair et le sang, mais des puissances démoniaques qu'il désigne sous les termes d'autorité, en grec c'est les arkas, de pouvoir, les exousias, de ce monde de ténèbres, de seigneur du monde, cosmokratoras, d'esprit du mal dans le monde céleste. Ce sont donc des démons, des êtres personnels, des créatures angéliques, au service de leur chef Satan. Certains commentateurs de ce passage ont pensé que Paul faisait allusion non à des êtres personnels, mais à des entités humaines, des puissances, des influences qui caractérisent notre monde gouverné par le prince de ce monde, comme l'appelle le Seigneur Jésus. Ces influences sataniques se manifesteraient dans les institutions humaines, politiques, sociales, juridiques, éducatives, philosophiques, morales, etc. Nul doute que ces puissances démoniaques dont parle Paul agissent aussi de cette façon et par l'intermédiaire de ces institutions. Mais il semble bien que ce ne soit pas que des influences, mais de véritables êtres spirituels, déterminés à combattre Dieu de toute leur force, tout comme leur chef, qui, vaincu à la croix, sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Jean, dont on a beaucoup parlé dans cette première partie, l'évangéliste, a entendu lors de sa vision qu'il rapporte dans l'Apocalypse une voix puissante qui venait du ciel et qui disait « Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, dit Paul, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Littéralement, on devrait traduire « prenez la panoplie de Dieu » parce que le mot grec c'est « panoplia ». C'est vrai que ce mot panoplie évoque plutôt pour nous un ensemble d'outils. Mais la traduction armure a aussi l'inconvénient d'évoquer dans notre imaginaire la lourde cotte de maille qu'endossaient les guerriers du Moyen-Âge. Mais ce n'est pas du tout le cas. Si l'on veut garder la notion d'arme, on devrait plutôt traduire le mot panoplia, qui est dans l'original, par armement. Équipez-vous de l'armement. C'est pas que l'armure, l'armement. Et donc Paul fait allusion à l'équipement ordinaire du soldat romain. N'oublions pas qu'il écrit cette épître alors qu'il est en prison, à Rome, avec un soldat romain chargé de le garder 24 heures sur 24. Ce qui fait que Paul connaît bien ce dont il parle. Alors voilà un soldat romain. Alors vous voyez, un légionnaire romain, je m'éloigne du truc, que j'ai trouvé sur Internet. Hein. En gros, ce qu'il faut retenir, bon, là, vous avez le casque, ça s'appelait le galéa. Le pilum, ça n'intervient pas ici. Il y avait également le glaive, hein, gladius, l'épée, c'est une épée courte. Hein. Il y avait également, bien sûr, la tunique, ils n'étaient pas tout nus, bien sûr. Ils avaient aussi un scutum. Le scutum, c'est ce grand bouclier qui couvre tout le corps. Et puis, des chaussures particulières qu'on appelait les caliguées, des sortes de bottes de cuir, qui leur permettaient de se déplacer aisément. Alors, Paul va détailler l'équipement du soldat romain, l'équipement du soldat chrétien. Il s'agit de tenir jusqu'au bout. Il n'est pas question du salut ici qui nous est assuré par pure grâce et dont le Seigneur Jésus lui-même assure la pérennité. Vous savez que parlant de ses brebis, il a dit par exemple encore en Jean 10, 28, « Nul ne pourra les ravir de ma main. » Mais il est question du combat que nous devons mener quotidiennement contre le diable et ses acolytes et notamment contre la tentation de l'assoupissement. C'est aussi un combat. Lorsque le Seigneur Jésus luttait au jardin de Gethsemane, il a demandé à ses disciples de lutter avec lui par la prière. Il leur a demandé de veiller afin de ne pas céder à la tentation et il a ajouté « L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Paul va énumérer maintenant donc les 6 éléments qu'il a retenus de l'équipement du soldat romain. La ceinture, la cuirasse, le bouclier, le casque, l'épée, éléments qu'il identifie respectivement à la vérité, la justice, les bonnes nouvelles de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Alors il commence par la ceinture. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Le premier élément de l'équipement du soldat donc, est donc la ceinture de la vérité. La ceinture du soldat romain était en cuir très robuste, qui ajustait la tunique autour de la taille et surtout maintenait l'épée. En la serrant autour de sa taille, le soldat romain se sentait plus fort et plus confiant, et ainsi attaché, son épée ne le gênait pas pour marcher. Alors, qu'est-ce que Paul entend par la vérité ? Puisque c'est la ceinture de la vérité. Alors, il peut s'agir de la vérité de la doctrine, la révélation de Dieu en Christ et dans l'Écriture. Il est certain que seule cette vérité rend libre et permet de démasquer les mensonges du diable. Jésus a dit en Jean 8, 31 aux Juifs qui croyaient en lui « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Il peut s'agir aussi de la vérité dans le sens de la sincérité, de la droiture ou de l'intégrité. Il est vrai que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Psaume 51, verset 6. Le chrétien doit à tout prix se comporter en homme honnête et véridique. Tromper, verser dans l'hypocrisie, faire appel aux intrigues, aux manigances, c'est faire le jeu du diable. En fait, les deux sens du mot vérité sont compatibles. Vérité de doctrine et vérité du cœur, c'est-à-dire sincérité. Ces deux aspects de la vérité sont une arme puissante pour résister au diable et à ses démons. Alors ensuite, Il parle de la cuirasse. Le deuxième élément de l'équipement du soldat de Christ est la cuirasse de la justice. Vous avez vu que le soldat romain, il avait quand même des trucs en fer sur les épaules. Hein, c'est un bout de cuirasse. La cuirasse de la justice. Dans son épître aux Thessaloniciens, Paul exhorte ses lecteurs à revêtir la cuirasse, là il dit, de la foi et de l'amour. Cependant, dans les écrits de Paul, le mot « justice » signifie le plus souvent « justification », c'est-à-dire l'initiative souveraine et gratuite de Dieu qui, en Christ, déclare le pécheur juste devant lui. Le théologien anglais John Stott écrit « Il n'existe certainement aucune protection spirituelle plus efficace pour le chrétien qu'une juste relation avec Dieu. Avoir été justifié par sa grâce, par le seul moyen de la foi en Christ crucifié, avoir été revêtu de sa justice, pouvoir se tenir devant Dieu sans craindre la condamnation, mais en étant accueilli par lui, tout cela constitue la vraie défense contre les accusations de la conscience et contre les calomnies de celui dont le nom hébreu signifie Satan, le nom hébreu Satan signifie adversaire, et le titre grec « diabolos » signifie « le calomniateur ». Telle est l'assurance chrétienne de la justification, d'une relation juste avec Dieu par Christ. Elle est une forte cuirasse, capable de nous protéger contre les accusations de Satan et de ses sbires. Au verset 15, « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. » Alors Paul fait probablement allusion là aux caligas, ces demi-bottes du légionnaire romain, faites de cuir avec des semelles cloutées, qui se fixaient à la cheville et à la jambe par des lanières. Elles permettaient aux soldats d'effectuer de longues marches et lui garantissaient une bonne assise sans jamais gêner sa mobilité et empêchant son pied de glisser. Peut-être que Paul pensait à Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix. La proclamation de l'Évangile fait donc partie normalement de l'équipement militaire du chrétien. Certains dans notre Église usent avec bonheur de ces chaussures. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Le mot que Paul utilise ne désigne pas le petit bouclier rond qui n'offrait qu'une protection limitée, qui était aussi utilisé dans l'armée romaine, mais le long bouclier ovale qui faisait 1,20 m sur 0,75 m, donc qui couvrait quasiment tout le corps, qui s'appelle donc le scutum. Il servait principalement à arrêter les objets incendiaires, tels que les flèches trempées dans la poix et allumées avant d'être lancées. Alors que représentent ces flèches enflammées? Ce sont d'abord toutes les accusations malveillantes qui brûlent notre conscience par ce que l'on peut appeler de fausses culpabilités. Ce sont aussi les pensées incontrôlées de doute, ou de désobéissance, ou de rébellion, de convoitise, de méchanceté, ou de crainte, qu'assaillent nos esprits. Le bouclier qui nous protège de ces flèches enflammées, Paul l'appelle le bouclier de la foi. La foi s'accroche aux promesses de Dieu lorsque surviennent les moments de doute et de découragement. La foi saisit aussi la puissance de Dieu à l'heure de la tentation. Verset 17. Prenez le salut pour casque. Le salut, c'est celui que nous possédons déjà. Le pardon, la délivrance de l'esclavage de Satan, l'adoption dans la famille de Dieu, etc. Et aussi l'attente confiante de sa pleine réalisation au dernier jour, la résurrection de nos corps et la parfaite ressemblance à Jésus-Christ dans les cieux. Ce salut est notre défense la plus efficace contre l'ennemi de nos âmes, dans le sens où il protège les pensées de notre tête. C'est le rôle du casque de protéger la tête de celui qui le porte. Parole de motard. Et, dernier équipement, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le mot traduit par épée dans ce texte est makaira, une épée courte, un glaive. Makaira parce que c'est en grec, hein. Et en latin, donc c'est le gladius. Un glaive, ce qui sous-entend un combat au corps à corps. Parce qu'avec une épée courte, on est obligé de se battre au corps à corps. C'est le glaive de l'esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui nous équipe de cette arme. Et Paul l'identifie à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu quelquefois des statues de Paul à l'entrée des églises catholiques. Hein. On le représente en général avec une épée et la Bible. La parole dans une main et l'épée dans l'autre. Donc Paul l'identifie à la parole de Dieu, ce glaive de l'esprit. Cette parole est d'une efficacité redoutable, selon Hébreux 4, verset 12. Vous connaissez bien ce passage, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de l'émoile. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc on peut faire confiance à l'efficacité de cette arme extraordinaire. Mais bien sûr, pour la manier à bon escient, il faut au minimum la connaître afin de la citer à propos. Et nous pouvons la citer en toute confiance parce qu'elle a son efficacité propre. Elle est efficace contre les offensives du diable, tant pour ceux auxquels on la proclame que pour nous-mêmes quand la tentation nous assaille. Jésus s'est magnifiquement servi de cette arme lorsqu'il a lui-même été tenté par le diable au désert, en citant la parole de Dieu au diable. Et donc Paul termine cette énumération des armes du soldat chrétien. En toutes circonstances, verset 18, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Et Paul ajoute en particulier, priez pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Vous voyez en particulier l'humilité de Paul, hein, le grand apôtre des nations qui demande les prières du peuple de Dieu pour qu'il puisse parler correctement, pour qu'il puisse dire les paroles qu'il faut. Et au verset 20, c'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que j'annonce avec assurance comme je dois en parler. Donc Paul ajoute la prière à la fin de cette description du combat spirituel, non comme une arme supplémentaire, mais comme l'ingrédient indispensable pour livrer ce combat. L'utilisation de l'équipement militaire qui vient d'être décrit ne va pas de soi automatiquement. Elle dépend de notre dépendance de Dieu, en d'autres termes de la prière. Et ce doit être une prière inspirée et contrôlée par l'Esprit, au même titre que la parole de Dieu et l'épée de l'Esprit. John Stott, encore lui, écrit à ce sujet « Ainsi l'Écriture et la prière apparaissent comme les deux armes principales que l'Esprit met entre nos mains. » Je pense que les sculpteurs qui représentaient l'apôtre Paul avec l'épée et la Bible avaient bien raison. Paul nous exhorte à intercéder pour tous les membres du peuple saint, c'est-à-dire tous les chrétiens dont nous savons qu'ils livrent des combats spirituels, et au premier chef, pour ceux qui proclament la parole de Dieu dans ce monde de ténèbres. Notez l'ironie de Paul au verset 20. « Je suis l'ambassadeur de l'Évangile auprès des païens, mais un ambassadeur lié de chaînes. » Lorsque Paul, comparaissant devant le gouverneur Festus, assisté du roi Agrippa et de Bérénice, prononça sa défense. Il interpella personnellement le roi Agrippa. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Il était gonflé, Paul. Hein ? Les prophètes, c'est une allusion à la parole de Dieu. Paul s'enhardit. « Oui, je sais que tu y crois !» Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, et tu vas me persuader de faire de moi un chrétien. » Et Paul a eu cette réponse magnifique. Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, en cet instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. Paul termine sa lettre en mentionnant Tychique, qui était un chrétien natif d'Asie. Peut-être même était-il membre de l'église d'Éphèse. C'est Tychique qui est chargé de porter la lettre de Paul aux chrétiens de la province romaine d'Asie, et notamment aux Colossiens, on le voit dans l'épître aux Colossiens, et de donner directement de ses nouvelles aux frères de ses églises. Paul sait que ces nouvelles les encourageront. Et il termine par ces belles paroles, par lesquelles nous allons terminer notre culte, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.